Il est écrit dans le psaume 99. Psaume 99. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Et dans le psaume 97, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Vous voyez, quand l'Éternel règne, il y a deux possibilités, soit on tremble, soit on a peur, mais soit on est dans l'allégresse. Tout dépend de notre positionnement. Si on veut laisser l'Éternel régner, on sera dans l'allégresse de savoir que le Dieu Tout-Puissant est notre Dieu, celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Ça nous donne l'allégresse, la joie. Mais si nous sommes dans l'opposition à ce Dieu-là, son règne nous fera trembler, son règne nous fera nous apportera des craintes indicibles. Et nous voulons, nous, être dans l'allégresse. C'est pourquoi nous préférons qu'il règne dans nos cœurs. Nous sommes au troisième jour de notre séminaire intitulé « Dieu et les dieux » au pluriel. Et nous avons expliqué la cause profonde de ce titre. C'est que le problème de l'univers, le problème de l'humanité, c'est le problème de déité. Qui est Dieu? Donc il y a une lutte par rapport à la divinité. Donc cette lutte a commencé par le diable. C'est écrit dans Ézéchiel 28 où on parle du prince de Tyr et du roi de Tyr. Ce n'est pas dans Ésaïe, c'est dans Ézéchiel seulement qu'on parle de ça, contrairement à ce qu'on a pu dire vendredi. Dans Ézéchiel 28, on parle du roi de Tyr et du prince de Tyr. Et dans Ésaïe 14, on parle de l'astre brillant, Lucifer, qui a été précipité. Et cet ange-là qu'on appelait autrefois Lucifer était rempli de beauté et d'éclat et de puissance. Alors il s'est cru être l'égal de Dieu ou même supérieur à son créateur. C'est ainsi qu'il a... Il s'est opposé au Créateur, à Dieu. Et quand il a échoué dans son opposition, il a pris d'autres anges pour l'appuyer dans sa rébellion. C'est ce qu'on appelle les démons aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la lutte entre l'homme et Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a tout donné comme pouvoir, autorité. Mais il fallait quand même qu'il y ait une différence entre le chef et le serviteur. Même si l'homme avait, en tant que serviteur de Dieu, les mêmes prérogatives que Dieu concernant la création, donner les noms aux animaux, parce que c'est quand même quelqu'un qui a créé les choses qui peut donner les noms. Mais Dieu a donné jusque cette prérogative à l'homme de donner des noms aux animaux. Donc ça donnait à l'homme une place presque de créateur. Mais Dieu lui a dit, je te donne toute cette autorité, cependant je reste au-dessus de toi, je reste ton chef. Et pour manifester le fait que je reste ton chef, tu n'auras pas accès aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme a écouté le diable qui lui a dit, en réalité, Dieu ne veut pas que tu touches à ce fruit, parce que si tu touches à ce fruit, si tu manges à ce fruit, de ce fruit, tu seras comme lui. Il ne veut pas avoir d'adversaire, il ne veut pas avoir de concurrent. Il est jaloux, Dieu. Et c'est là que l'homme se dit, mais tiens, pourquoi pas passer à une autre étape, alors qu'il était déjà puissant, il était déjà glorieux, il avait déjà tout, mais il a voulu quand même prendre la place de Dieu. Une fois de plus, l'homme a eu échec. Parce que comment peut-on penser vaincre son créateur? C'est de la folie. C'est l'orgueil qui donne cette folie-là. Et il y a eu échec. L'homme a été aussi chassé du jardin d'Éden. Mais à un certain moment, l'homme s'est multiplié. Donc il y a eu plusieurs humains sur terre. Et ces gens-là, dans leur méchanceté, ils ont décidé de se rassembler quand même dans un objectif commun, atteindre le niveau de Dieu. Même si entre eux, ils se combattaient, mais ils étaient d'accord pour un objectif commun, construire une tour pour atteindre les cieux. En quelque sorte, ils ont cru qu'en étant nombreux, ils pouvaient réussir ce que l'homme tout seul n'a pas pu obtenir, l'égalité avec Dieu. En étant nombreux, ils pouvaient l'obtenir. Donc ils ont compté sur la force du nombre pour construire cette tour de Babel. Et Dieu les a confondus. Même quand ils construisaient ça, on l'a dit les deux jours précédents, ils se sont dit « faisons-nous un nom » dans Genèse 11. « Faisons-nous un nom ». Donc ils ont voulu créer une nouvelle identité, se créer leur propre Dieu pour évincer le Dieu qui est à l'origine de tout. Mais Dieu a prouvé encore qu'il était le Tout-Puissant, le Créateur. Il leur a donné des langues différentes et ces langues différentes les ont séparées et ça a constitué plusieurs peuples. Et ces plusieurs peuples ont fini encore par le nombre, à cause du nombre, se créer leur propre Dieu, le Dieu des peuples, le Dieu des nations, les dieux des nations. Et avec leur système d'adoration de ces faux dieux-là. Et par la suite, comme on l'a dit, ces dieux sont devenus en même temps des dieux pourvoyeurs. Parce que l'homme, quand il a été chassé du jardin d'Éden, est entré dans la limitation, dans l'incapacité dans beaucoup de domaines. Et la limitation conduit l'homme à dépendre de choses extérieures. Il faut qu'il mange, ça dépend de l'extérieur. Il faut qu'il fasse la guerre, ça dépend de l'extérieur. Il faut qu'il ait des enfants, parfois ça dépend de l'extérieur. Alors l'homme avait besoin des dieux qui puissent lui assurer tout cela. Et les dieux des peuples sont devenus finalement des dieux en même temps pourvoyeurs. Et ils ont fait des statues pour les représenter, des idoles pour les représenter. Et le Seigneur, pour contrer cela, pour parler, parce que Dieu voulait quand même, malgré tout, sauver l'homme, malgré sa rébellion, il a constitué un peuple à lui, qu'on appelle Israël. Et c'est ce peuple-là qui a été chargé d'être la représentation divine sur terre pour dire aux autres peuples, revenez au véritable Dieu, revenez à l'Éternel. C'est lui le véritable Dieu. La preuve, nous on est un petit peuple, on est peu nombreux, on n'est pas vraiment armés, mais nous arrivons à vous battre dans les guerres. C'est notre Dieu qui nous donne la victoire sur vos faux dieux. Donc l'histoire d'Israël, c'est cette histoire-là. Dieu utilise un peuple pour montrer aux autres peuples le vrai chemin, le bon chemin. Donc les guerres de l'Ancien Testament sont des bonnes guerres, parce que ce sont des guerres en réalité qui sont des messages pour les autres peuples, pour dire aux autres peuples, le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Mais malgré tout, les gens continuent avec leur religion. Même Israël a transformé son alliance avec Dieu en une sorte de religion dirigée par des humains. Et est venu le temps des Romains, avec tout ce qu'ils ont créé comme paix, système de communication, moyens de transport, ça a permis un temps où l'individu commençait à exister. Parce que pendant un temps, l'individu n'existait pas comme tel, il existait au sein d'un peuple. Et avec les Romains, avec les philosophies qui se sont répandues, il y a eu de nouvelles pensées, les gens commençaient à réfléchir un peu petit à petit par eux-mêmes. C'est là que Dieu envoie son Fils. C'est pourquoi c'est écrit dans Galates 4:4, quand les temps furent accomplis. Donc il fallait qu'il y ait un temps pour que Jésus vienne. Ce temps-là était arrivé au temps des Romains, parce qu'il y avait c'était un temps où il y avait une langue presque pour tout le monde, le grec. C'était un temps où les voies de communication étaient là. C'était un temps où l'individu commençait à réfléchir. Or, l'évangile est proposer à l'individu, d'abord, ensuite aux nations, mais d'abord à l'individu. Donc il fallait revenir à ce temps-là où l'individu pouvait recevoir un message, réfléchir, accepter ou pas. Et l'évangile vient en ce moment-là où l'individu commence à exister, à avoir la capacité de sortir d'un peuple, déjà par les philosophies et bien d'autres systèmes. Et c'est aussi à un temps où le transport était possible. Nous connaissons comment l'évangile aussi s'est répandu facilement parce qu'il y avait une sorte de tranquillité dans les peuples à cause de la domination romaine qui a favorisé la prédication de l'évangile dans le monde entier, de l'époque, le monde entier de l'époque. Et finalement, nous avions vu que après ce temps-là, en ce temps-là, il y a eu, les religions sont devenues des religions générales. Autrefois, c'était des religions des peuples, mais c'est devenu des religions qui pouvaient se mélanger, où les peuples pouvaient se mélanger. Avant, ce n'était pas trop le cas. Mais après l'époque romaine, les religions commençaient à se mélanger. C'était le règne de la religion par elle-même. C'est ainsi que les prêtres, les intermédiaires dans les religions ont acquis encore beaucoup plus d'importance et les religions se sont répandues sur toute la terre. Malgré ça, Dieu s'était constitué pour lui un nouveau peuple qu'on appelle, sans avoir occulté l'ancien peuple, mais il a mis comme une parenthèse avec Israël par rapport au fait d'annoncer que Dieu seul est Dieu. Et c'était maintenant l'Église, un nouveau peuple qui pouvait parler à l'individu qui a été suscité par la venue de Jésus, le Fils de Dieu. Ainsi, l'Église faisait son travail de parler à chaque individu sur toute la terre. Et là où il avait la possibilité de parler à toute une nation, elle faisait aussi ce travail-là, l'Église du Seigneur. Et nous avions expliqué que avec le temps, l'individualisme est devenu plus fort. Donc nous sommes passés d'un temps où le peuple, l'homme vivait par le peuple, petit à petit il commençait à vivre par lui-même, et nous sommes à la fin des temps où l'individu devient très très important. Il vit que pour lui-même. Ne serait-ce qu'il y a 50 ans, nous entendions des langages du genre, auprès de beaucoup de mamans, de beaucoup de femmes, le langage du genre, je reste dans ce mariage que pour mes enfants. Voilà, donc il y a des femmes qui, même si elles étaient malheureuses dans leur mariage, elles acceptaient d'y rester pour garder leurs enfants. Donc il y avait ce minimum-là, cette logique de vivre pour les autres, de vivre en peuple, en groupe. Aujourd'hui, chacun voit son intérêt. Même les enfants qui sont un trésor, une richesse extraordinaire, sont laissés pour compte dans cette affaire d'individualisme, d'égoïsme. C'est le temps que nous vivons où la religion se transforme maintenant en système pour satisfaire les désirs de l'homme. C'est ça, c'est comme ça que la religion se transforme. Système pour satisfaire les désirs de l'homme. Et même dans le christianisme, il y a eu cette transformation. On appelle ça l'évangile de la prospérité, l'évangile de la réalisation personnelle, où on prêche beaucoup plus sur tout ce qui peut intéresser sur la terre un individu, au lieu de prêcher le retour à Dieu, au lieu de prêcher le règne de Dieu. Parce que le problème initial, comme nous insistons sur ça, le problème initial, c'est que Adam a refusé que Dieu soit son Dieu. Il a voulu être l'égal de Dieu. Il a refusé que Dieu soit son maître. Il a refusé de se soumettre à Dieu. Et aujourd'hui, on prêche aux gens tout ce qui est bon pour eux en tant qu'individus et non pas, on ne leur demande pas de s'humilier et d'accepter le règne de Dieu dans leur vie. Et ça confirme les Écritures. Donc les gens vont dans les endroits où on va leur parler de manière à ce que eux soient satisfaits. Ils ne cherchent pas la vérité de Dieu, mais ils cherchent leur propre satisfaction. On leur met de la pommade. Ils veulent qu'on leur dise des choses qui vont les élever, eux, de belles prophéties qui les élèvent, eux. Mais ils ne veulent pas la vérité qui peut décaper, qui peut faire une opération chirurgicale, mais qui sauve, qui apporte le règne de Dieu. Comme on a dit, hein, l'éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. On sera heureux de voir le règne de Dieu, ceux qui acceptent de se soumettre à lui. Mais ceux qui n'acceptent pas seront malheureux. Ils vont trembler. Et aujourd'hui, nous clôturons ce séminaire en parlant de l'exacerbation de l'individualisme. L'individualisme est devenu très fort, très très fort. C'est le point final de l'histoire de l'humanité. Nous sommes au point final de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, l'histoire de l'humanité a commencé par l'individualisme. L'homme, il était seul, il a voulu s'opposer à Dieu. Ensuite, il est devenu un peuple. Il a voulu s'opposer à Dieu en peuple. Ça n'a pas marché, il est devenu plusieurs peuples. Et puis, nous sommes en train de faire le retour. De plusieurs peuples, ça a créé des religions. Les religions ont mélangé le peuple. Mais petit à petit, l'individualisme a commencé à revenir. L'homme a commencé à exister par lui-même. Et finalement, nous vivons une époque où l'homme devient réellement Dieu lui-même. Il veut avoir tout ce qu'il désire. Il veut que les choses se passent comme lui le veut. Il est devenu son Dieu. Et au point où aujourd'hui, un homme se donne l'autorité de changer son genre. Il passe de masculin à féminin. Vous voyez que le niveau de divinisation de l'homme, le niveau d'autorité. Parce que la divinisation, c'est quoi? C'est le fait que tu sois ton chef. Parce que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Donc, il doit être notre chef. La divinisation, c'est quand tu es ton propre chef. Et cette divinisation augmente, parce qu'au moins, il y a certains siècles, l'homme dépendait quand même de ce que son peuple pensait, dépendait de ce que les gens pensaient. Non, aujourd'hui, il veut quelque chose, c'est lui qui décide. On a vu des bébés qui sont achetés à 8000 euros. Donc la personne veut avoir un enfant, elle ne tient pas compte de ce que la société peut penser, elle va l'obtenir comme elle veut. Et donc cela, cet individualisme-là, cet égoïsme va monter et nous montre que nous sommes à la fin. Parce que l'homme vraiment se lève devant Dieu et dit, physiquement je suis un homme, mais moi je décide d'être une femme. Voilà, je change d'identité. Rébellion totale. Nous lisons 1 Timothée chapitre 4. Non, 2 Timothée plutôt, chapitre 3 et puis 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est vrai, c'est des temps difficiles. Hein. C'est des temps très difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, mais ils auront une apparence, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la nature de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si tu te dis prêtre, tu te dis homme de Dieu, tu dois ressembler à Dieu. Mais il y a des gens qui auront des habits et un discours d'homme de Dieu, de femme de Dieu, mais ils n'ont pas la nature de Dieu. Ce qui fait la force du discours, c'est la nature même de Dieu. Beaucoup vont avoir le discours, mais où est la nature? Où est la force qui montre la sainteté? Voilà ce que seront les hommes dans les temps de la fin. Et qu'est-ce que dit Paul pour clôturer le verset 5? Éloigne-toi de ces hommes-là. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre séminaire en disant, sortez du milieu d'eux. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous sommes la race qui a refusé de se rebeller contre Dieu au jour de la tour de Babel. Nous devons sortir de cette race-là qui se rebelle contre Dieu. Refuser ça. Et cette race-là se trouve aussi au milieu de ceux qui s'appellent des chrétiens. Des gens qui dirigent leur vie par eux-mêmes. Qui tuent l'appel de Dieu dans leur vie. Qui décident ce qu'ils veulent. Qui ne disent pas comme Paul, « Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je vais faire. » C'est des gens de la race de la tour de Babel qui décident de chercher Dieu par leur propre intelligence, par leur propre logique, d'aller atteindre Dieu. C'est ça la religion. Dieu dit par la bouche de Paul, éloigne-toi de ces hommes-là. Toi, accepte le règne de Dieu. Accepte la Bible, la parole de Dieu. Accepte le chemin par lequel Dieu veut te faire passer. 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Les hommes ne supporteront pas d'entendre la vérité crue, ils vont préférer les mélanges, ils vont préférer les gens qui vont empaqueter le mensonge pour leur faire avaler ça beaucoup plus facilement au lieu d'accepter la vérité qui peut faire mal mais qui sauve. Ils vont préférer tout ce qui leur donne un goût de bonbon. Mais il y a des bonbons empoisonnés, il y a des gâteaux empoisonnés. Le goût sucré n'est pas synonyme de santé. Beaucoup aujourd'hui souffrent des dents à cause du goût sucré. Le goût sucré peut créer le diabète. Les gens cherchent le goût sucré. Qu'est-ce qui va leur rendre la vie terrestre agréable? Ils ne cherchent pas ce qui va leur rendre la vie céleste agréable, mais ce qui va leur rendre la vie terrestre agréable. C'est une erreur. Alors ils vont chercher la personne qui va parler le même langage qui arrange leur vie. Mais Dieu ne peut pas parler le même langage que nous. C'est écrit dans Ésaïe 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Même moi qui vous prêche, bien-aimé, combien de fois je me rends compte que ce que je peux penser ne correspond pas à ce que Dieu veut. Mais c'est normal puisque nous sommes des humains. Mais maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est de nous soumettre à ce que lui, il pense. Quand on se rend compte que nos pensées ne sont pas ses pensées, on met nos pensées de côté, on prend ses pensées à lui. Donc les gens vont devenir Dieu en quelque sorte, parce que c'est eux-mêmes qui choisissent leur docteur. Donc ils choisissent les gens en fonction de ce qu'eux ils veulent entendre. Donc finalement c'est eux qui décident, c'est eux qui deviennent Dieu. Nous vivons l'époque de la déification de l'homme, où l'homme a pris la décision d'être son chef et de faire ce qu'il veut. Cette époque est due au fait que la technologie ayant progressé, les sciences ayant progressé, l'homme se trouve capable d'obtenir les choses rapidement et parfois comme il veut aussi. Il y a 5 ans à peine, l'homme, on avait le désir, les gens avaient le désir d'utiliser les tablettes ou les téléphones d'une manière tactile. C'était comme un rêve lointain, mais ça s'est accompli très vite. Je me souviens d'une bande dessinée qui montrait que dans les années 5000, pour eux, ils ont mis ça dans les années 5000, les gens, parce que c'est une bande dessinée écrite il y a plus de 30 ans ou 40 ans, qui montrait que dans les années 5000, les gens allaient utiliser un téléphone qui sera comme une montre. Mais nous, on a atteint ça déjà là maintenant. Déjà, il y a des téléphones qui vont sortir comme des montres. Mais les gens d'il y a 40 ans pensaient que ça sera dans les années 5000. C'est pour nous montrer à quelle rapidité la technologie a avancé. Et cette rapidité-là, le système, économique aussi, la façon d'acheter, la façon de vendre, tout ça a avancé tellement que l'homme croit qu'il peut obtenir ce qu'il veut. Aujourd'hui, en tapant sur l'ordinateur, tu commandes le produit que tu veux et ça arrive chez toi. Et tout ça fait que l'homme ne se donne plus de limites. Il se croit illimité. Aujourd'hui, le clonage est appelé même une résurrection. C'est-à-dire tu peux mourir, on te ressuscite en quelque sorte. En ayant gardé tes cellules, on peut te recréer à nouveau, toi le même, puisque le clonage, ça te reproduit toi à l'identique. Donc ils appellent ça résurrection. Voyez comment ils veulent prendre la place de Dieu. Comprenez le terme. Pourquoi ils appellent ça résurrection? Ce n'est pas une résurrection. Résurrection, c'est un corps qui revient à la vie, qui était mort. Mais là, tu restes mort, mais ils te créent à nouveau. Et ils appellent ça résurrection. Tout ça parce qu'ils veulent attaquer Dieu. Ils veulent prendre la place de Dieu. C'est la rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est la première rébellion d'Adam. Je veux être comme Dieu. Et cette époque favorise cet individualisme. L'homme devient le centre de toutes choses. Et la démocratie joue aussi par rapport à cela. Puisque dans la démocratie, l'homme a son poids. L'homme vote. L'homme a son bulletin. Il a un poids. Et donc, on est obligé d'assouvir ses désirs pour pouvoir avoir son bulletin de vote, pour prendre le pouvoir. Donc tout ça fait que l'individualisme monte. Le problème c'est que des gens individualistes, c'est qu'ils pensent qu'ils sont devenus Dieu parce qu'ils ont le bulletin de vote. Ils peuvent protester sur Internet, ils peuvent faire des choses, mais ils finiront par se faire avoir. Parce que derrière tout ça, il y a Satan qui cherche à de plus en plus à rendre l'homme égoïste et individualiste, attaché au plaisir plus qu'à Dieu, dans le but de le rendre esclave. Nous savons tous que on décide quand on commence de fumer, mais on ne décide pas trop quand on finit. Donc pour finir, on peut décider 5 fois, 10 fois, 15 fois même. Mais pour commencer, c'est simple. Mais c'est pour finir, ce n'est pas la même chose. Donc ça veut dire que les plaisirs, le début, c'est nous qui décidons pour ça. Mais pour arrêter, quand on commence à se rendre compte que c'est dangereux pour nous, que le sucre est devenu dangereux pour toi, l'alcool est devenu dangereux pour toi, la pornographie est devenue dangereuse pour toi, le mensonge est devenu dangereux, quand on veut maintenant arrêter, on se rend compte que la chose que nous, on avait commencé par notre propre autorité est devenue notre chef. C'est ça l'objectif du diable. Créer l'individualisme. L'individualisme où l'homme peut voir tous ses désirs exaucés par la société, par l'État, dans le but de créer la dépendance et puis l'esclavage. Et quand l'homme sera bien esclave, il y aura le dictateur mondial qui va réunir tout le peuple comme le jour de la tour de Babel pour essayer de combattre Dieu. C'est ça l'objectif. Ça finira ainsi. Maintenant, Dieu nous dit une chose. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez. Ne suivez pas le même régime. Ne soyez pas égoïste, individualiste. Revenez au corps du Christ. Revenez. Acceptez de vivre en peuple de Dieu. Acceptez de vivre en brebis. Voyez le langage de la Bible. La Bible nous appelle, nous les enfants de Dieu, des brebis. Parce que les brebis sont censés suivre un berger. Nous sommes des brebis. Soyons, acceptons d'être des brebis. Suivons notre Dieu. Qui ne connaît pas l'histoire des brebis qui, à chaque fois, quittent le troupeau, se font manger par des animaux sauvages? Puisque c'est dans le troupeau que se trouve le berger qui protège. C'est dans le troupeau que se trouvent les chiens qui sont autour là, qui protègent aussi. C'est pourquoi la Bible nous appelle des brebis. Mais le monde ne veut surtout pas ça. Aujourd'hui, le monde te dit, mais bon, les socialistes te disent, bon, ce que tu veux, on va l'accomplir. Hein. Tu veux un enfant procréation médicalement assistée, ah ben on va voter ça. Tu veux mourir tout seul. Tu veux pas mourir tout seul. Tu veux qu'on te donne la mort parce que tu veux en finir avec la vie. Ben, euthanasie, on vote ça. Pas de problème. Donc, Dieu n'existe plus. On veut prendre sa place. Dieu produit la vie, mais on veut enlever la vie. Par les humains. Je vous dis, bien-aimés, ceux qui pensent que l'individualisme, l'égoïsme, la recherche des plaisirs terrestres d'une manière dépravée, c'est ce qui est bien, vous finirez esclave. Et quand vous deviendrez esclave, c'est là que ces gens-là vont vous dominer. Tu veux te shoot, tu veux prendre de la drogue, on fait des salles de shoot, comme ils les appellent. Et là, tu vas devenir de plus en plus dépendant. Alors, imagine qu'on te dise, bon, monsieur, on a besoin de toi pour aller faire un assassinat. Sinon, vous n'avez pas votre dose. C'est fini pour vous. Après, dès que tu es esclave, on peut te manipuler pour tout. L'Antichrist est en train de préparer des esclaves, des dépendants. À travers la soi-disante liberté qu'on va laisser à chaque humain de faire ce qu'il veut, c'est en réalité le piège de la dépendance, puis le piège de l'esclavage, et puis les instructions méchantes vont venir par la suite. Mais malheureusement, ça sera trop tard pour beaucoup. C'est le moment de s'humilier et de revenir à Dieu. Certains vont dire, mais moi je suis déjà dans Dieu. Mais est-ce que Dieu règne dans ta vie? Est-ce qu'il est le chef? Quelle est la prière que le Seigneur nous a laissée? Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit accomplie sur la terre comme aux cieux. C'est-à-dire que dans ma vie, il faut que ta volonté s'accomplisse. C'est ta volonté qui doit s'accomplir. Dans ma vie, ça doit être toi qui règnes. Il ne suffit pas de dire on est enfant de Dieu. Le jeune homme riche. Parce que beaucoup croient que si on ne vole pas, on ne ment pas, on ne tue pas, on est un bon chrétien. Non, pas du tout. Le vrai chrétien, c'est celui en qui Dieu règne. Effectivement, quand Dieu règne, il ne volera pas, il ne mentira pas, il ne trompera pas. Le jeune homme riche de Luc 18, quand Jésus lui a dit, est-ce que tu as accompli la loi? Il a dit, j'accomplis cela depuis longtemps, depuis que je suis jeune. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne frappe pas, je ne tue pas. Je donne les offrandes, je donne la dîme, je fais tout ce qu'il faut. Mais Jésus lui a dit, vends tous tes biens et suis-moi. C'est là qu'on a la différence entre quelqu'un qui semble bien se comporter et quelqu'un qui est vraiment de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui semblent bien se comporter parce qu'ils ne volent pas, ils ne mentent pas, mais Dieu ne règne pas dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas prêts à suivre Dieu. En réalité, ils obéissent à une morale de vie. Et beaucoup de païens obéissent aussi à une certaine morale de vie. Ils payent bien leurs impôts, ils sont corrects au travail, ils ne volent pas. Mais est-ce que c'est ça qui sauve? Non. Ce qui sauve, c'est le règne de Dieu. L'Éternel règne et la terre est dans l'allégresse. Quand il règne, c'est quand il règne que la terre est dans l'allégresse. Dans ta vie, c'est quand il régnera que tu seras dans l'allégresse. Et le jeune homme riche, il s'en est allé tout triste parce que Dieu ne régnait pas dans sa vie. Parce que qu'est-ce qu'on lui a demandé au fait? Quand Jésus lui dit, vends tous tes biens et suis-moi. Il lui a demandé d'obéir au commandement qui dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ah, il a été bloqué. On peut faire de beaux discours. Dieu te dit, mais maintenant je t'attends en Chine. Tu vas faire des contre-discours. Et le premier jour, on expliquait que souvent on est étonné de voir que des chrétiens étaient très engagés à un moment donné et qu'ils sont retournés dans le monde. 15 ans ou 20 ans après, ou 8 ans après, ou 5 ans après. Et souvent on a donné comme explication, ah, ils n'étaient pas bien convertis. Il n'y a pas que cela. Il y a le problème du règne de Dieu. Quand Dieu ne règne pas dans la vie d'une personne, le problème de la personne n'est pas encore résolu. Parce que le problème de l'homme, c'est Adam. Le problème de l'homme, c'est moi qui suis mon chef. Je ne veux pas que Dieu soit au-dessus de moi. C'est ça le problème de l'homme. Donc même si un homme semble ne plus voler, ne plus mentir, ne plus faire ceci ou cela, mais tant que dans son esprit, il ne s'est pas encore plié devant Dieu pour dire « Dieu, tu es mon chef, c'est toi que je suis, c'est toi que je veux suivre, c'est toi que je décide que tu me conduises. » Cet homme finira par le péché. Parce que tôt ou tard, il manifestera son opposition à Dieu et il tombera dans le péché comme Adam, tôt ou tard. Au début, il va sembler proche de Dieu, il va chanter avec nous, il va faire des choses. Mais tôt ou tard, parce que Dieu n'a pas décidé de tout lâcher à Dieu, tôt ou tard, il retournera dans le monde. C'est pourquoi nous ne devons pas nous étonner ou parfois nous attrister outre mesure. Je dis bien, on peut s'attrister, mais pas outre mesure, parce que la parole s'accomplit. Nous devons prier pour que les gens viennent vraiment à Dieu, mais nous ne devons pas nous attrister outre mesure quand nous voyons des gens retourner dans le monde. Et nous devons prier qu'ils prennent la décision de lâcher, de capituler, que Dieu soit leur maître. Mais tôt ou tard, tous ceux qui font semblant, un jour ou l'autre, ça se montrera. Je vous ai souvent raconté l'histoire d'une dame qui était femme de pasteur, qui a été avec son mari pendant 40 ans en Inde. Vous savez, l'Inde, ce n'est pas n'importe quelle terre de mission. C'est très difficile, il y a des années. À l'époque, en plus, ce n'est pas notre époque, d'électricité tous azimuts. C'était à la vieille époque. Il y a des serpents, il y a la végétation, la saleté, la magie. L'hindouisme, le bouddhisme, et on t'envoie dans un pays de ce genre-là. Mais elle a tenu bon. 40 ans avec son mari de ministère. 40 ans. Une Américaine. Donc si elle avait fait 40 ans de ministère avec le mari, elle devait avoir fait peut-être 45 ans de vie commune environ. Mais son mari meurt. Après les 40 ans de ministère, et cette dame est devenue esclave de séries télévisées. Et ce sont ses petits-enfants qui lui parlent, qui disent « Mamie, c'est toi qui nous as amenés au Seigneur. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es maintenant accroché aux séries télévisées, tu ne veux plus de Dieu. » Bien-aimé, tout cela pourquoi? Parce que Dieu est fautif parce qu'il lui a pris son mari. Donc quand elle souffrait en faisant 40 ans de ministère, pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui étaient convertis par elle. Pour tout le monde, c'était une femme de Dieu. Soutenir un mari en Inde, pasteur, peut-être même pas riche. Quel exploit! Je crois que beaucoup de femmes devaient l'envier. Mais Dieu savait que cette femme n'appartenait pas à son règne. Et tôt ou tard, Dieu l'a montré. Il a suffi qu'il prenne son homme. C'est là que les gens ont compris que quand il faisait 40 ans de ministère, c'était pour son homme. C'est son mari qui était son Dieu. Et comme aujourd'hui, beaucoup de gens ont leur Dieu. Leurs enfants sont devenus leur Dieu. Leur travail, leur Dieu. Les vacances, leur Dieu. Les plaisirs, leur Dieu. L'argent, leur Dieu. Beaucoup ont leur Dieu. Mais quand nous sommes dans des phases positives, c'est-à-dire dans des phases où il n'y a pas de problème, on chante, on prie, on prêche l'évangile, il n'y a pas de problème. Mais dès que viennent les tribulations, dès que viennent les difficultés, c'est là qu'on saura. C'est là qu'on saura. Dès que viennent les paroles dures du Seigneur, vous savez comment les gens quittaient le Seigneur la première fois? C'est quand il a dit qu'il fallait qu'on le mange. C'était une parole dure, les gens ont dit, mais c'est une parole dure. Oui, c'était une parole dure. Et ça a éprouvé qui était avec lui, qui était dans son règne, qui n'était pas dans son règne. Les gens l'ont quitté, ont dit, mais nous, on ne va pas devenir cannibales. Hein. Même s'il fait des miracles, on s'en va. Pourtant, il était en train d'expliquer ça d'une manière spirituelle, mais les gens l'ont dit, non, ce langage-là, on n'en veut pas. Au fait, on veut que Dieu parle notre langage. Quand il parle son langage, on n'en veut pas. Et les 12 sont restés quand les autres sont partis. Jésus dit aux 12, mais pourquoi vous restez alors que tout le monde m'a quitté? L'apôtre Pierre a dit, c'est parce que nous avons su que tu as les paroles de la vie éternelle. Toi, tu as les paroles qui touchent l'éternité. Vers qui irions-nous? C'est ce que Pierre dit. Les autres nous ne promettent que des choses temporaires. Les CDI, ça va prendre 30 ans, 50 ans. Mais même là, on a vu des gens croyant que ça allait jamais finir. C'est fini quand même. Ils sont tombés dans la dépression, puis dans le suicide. Le monde, le succès du monde, ça passe. On a vu Lance Armstrong. Aujourd'hui, Brigitte Bardot, est-ce qu'elle est encore mannequin? Où est Mohamed Ali? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont plus de 40 ans. Vous vivez vos 40 ans, 45 ans, 50 ans à l'aise. Mohamed Ali, dès 42 ans, il a eu la maladie de Parkinson. Il n'a même pas profité de sa gloire acquise à coups de poing pendant longtemps, pendant 20 ans. Il n'en a même pas profité. Dès qu'il arrête la boxe, il arrête avec la maladie. Tout ça n'est que de passage. Mais Pierre a dit, mais toi Jésus, tu donnes des paroles qui ne sont pas de passage. Des paroles de la vie éternelle. La religion ne sauve pas, c'est Dieu qui sauve. Il faut que chaque humain, celui qui se dit chrétien, se dise, moi, je veux que Dieu règne dans ma vie. Que ce soit lui qui me conduise. Comme Jackie Poulinger, elle a entendu à 23 ans la voix de Dieu qui lui dit, va. Elle est partie voir un pasteur, un premier pasteur. Elle dit, mais j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, va. On n'a pas su quoi lui répondre. Elle est partie voir un deuxième pasteur. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, va. Le pasteur a dit, mais va. Mais où je vais aller? Le pasteur a dit, mais fais comme Abraham. On lui avait dit aussi d'aller là où il ne savait pas. Alors, elle a pris le billet le plus long, jusqu'en Extrême-Orient, en Chine, là-bas, arrivée à Hong Kong. La même voix lui a dit, descends. Elle est descendue. Elle a fait sa mission dans le quartier le plus dangereux de Hong Kong. On appelait ça la cité interdite. Même les policiers n'entraient pas là-bas. Mais elle, une fille anglaise de 23 ans, a fait son travail là-bas. 2 ans, aucun fruit. Elle a fait toutes sortes de choses. Le ping-pong, le repas pour amuser les drogués. Deux ans, aucun résultat. Après 2 ans, les conversions commencent à pleuvoir. La puissance de Dieu s'est manifestée. Une fille de 23 ans, parce qu'elle a accepté que le règne de Dieu soit dans sa vie. Beaucoup de gens ont de beaux discours, mais il n'y a aucun fruit dans leur vie. Ils aiment Dieu par la bouche. Ils connaissent la Bible par la bouche, mais il n'y a pas de conversion autour d'eux. Ils ne font rien pour Dieu, mais ils parlent beaucoup. Elle n'a pas beaucoup parlé. Elle a écouté la voix de Dieu. Je vais. Jusqu'à 40 ans, elle n'était pas encore mariée. Combien de gens ne se précipitent pas pour laisser tomber la voix de Dieu pour le mariage aujourd'hui, pour les enfants, pour beaucoup de choses de la terre?
Bien-aimés, nous sommes dans le temps où nous devons accepter que Dieu règne. Il n'y a plus de missionnaires à notre époque. Il y a Edmé Cottier. Elle a le même sort que Jackie. 23 ans, taille de mannequin. Elle quitte la Suisse pour aller en Angola. À l'époque, ce n'est pas l'Angola d'aujourd'hui avec Internet. C'est l'Angola d'autrefois. Il faut avoir un fusil de chasse. Peut-être qu'un léopard veut venir le soir à la maison. Mais aujourd'hui, les femmes, c'est le maquillage. C'est les séries de télévision. Fait de l'amour. On enregistre qu'on n'est pas là. Où est le feu du Saint-Esprit, bien-aimé? Non. Que Dieu règne. Aujourd'hui, les hommes, c'est seulement sur Internet. Regardez le compte. Ordinateur. Ah, 500 euros encore. Commande une paire de chaussures à Zalando. Allez. Non, bien-aimé. La mission de Dieu. Que Dieu règne. Trop de discours, on est fatigué. Les discoureurs allaient à l'Olympe à faire du théâtre là-bas. Dans l'église du Seigneur, nous voulons les gens qui aiment, non pas en parole, mais en action. Combattant jusqu'à la mort. Les journalistes, les spécialistes de voir les fautes de ceux qui travaillent. On est fatigué. Dieu lui-même voit les fautes de ceux qui travaillent. Toi, travaille aussi. On ne va pas passer notre temps à critiquer ceux qui travaillent. Si on estime qu'ils travaillent mal, que nous aussi on travaille pour montrer le bon travail, comment ça doit se faire. Amen. Les discours, on est fatigué. Que Dieu règne dans nos vies. Moïse n'a pas fait beaucoup de discours. Il a discuté un peu pour aller, mais quand Dieu lui a dit, vas-y, il est parti devant Pharaon avec son bâton. Parce que le règne de Dieu était sur sa vie. Sortons de la rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est ça la cause profonde de tous nos péchés. Nous luttons contre l'alcool, nous luttons contre la colère, nous luttons contre l'impudicité, nous luttons contre tout ça. Mais la source profonde, c'est qu'un jour, un homme a dit non à Dieu. Je ne veux pas que tu sois mon maître. C'est ça la source de tout. Le péché, c'est tous ces péchés qu'on cite là n'existaient pas avant ce péché-là. C'est à partir de ce péché-là que l'homme a dégénéré et produit les autres péchés. Le vrai péché, c'est de refuser que Dieu soit ton maître, règne, décide sur ta vie. C'est ça le vrai péché. Alors que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a tout donné. C'est ça le vrai péché. Et Jésus est venu nous montrer l'exemple. Lui qui était l'égal de Dieu, nous lisons Philippiens 2. Philippiens 2. Ayez en vous, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà comment Jésus a réparé le péché d'Adam. Et c'est la voie que Dieu nous demande à nous tous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, donc il était Dieu lui-même, il n'a point regardé son égalité. C'est écrit, hein? Lui au moins il était égal à Dieu, alors que Adam n'était pas égal, Satan, Lucifer n'était pas égal, mais ils ont voulu quand même devenir égal. Mais alors Jésus, lui, il était déjà. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est pourquoi son nom a été élevé. Lui qui était égal de Dieu, il est venu en homme, il s'est humilié, il a été brisé jusqu'à être crucifié à la croix. Quelle honte! Mais c'est ça qui produit le règne de Dieu dans sa vie. Il est ressuscité le troisième jour. La gloire de Dieu s'est manifestée. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous pouvons chasser les démons. Au nom de Jésus, nous prenons le breuvage mortel et rien ne nous arrive. Au nom de Jésus, les âmes se convertissent. Les gens veulent faire des choses pour Dieu, mais ils ne veulent pas le règne de Dieu dans leur vie. Le règne de Dieu va commencer dans la maison, là où tu dois dire pardon à ta femme, pardon à ton mari, là où tu dois dire pardon à tes enfants, pardon à tes parents. Le règne de Dieu commence dans les petites choses, bien-aimé. Tu peux te les faire passer quand tu es dans une queue. Quelqu'un de compliqué, il passe. Tu lui dis que Dieu te bénisse. Le règne de Dieu commence là où on est. Ce n'est pas en venant prêcher ou en chantant. Le règne de Dieu commence lorsqu'on est prêt à accepter que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que les situations négatives que je vis contiennent forcément la bénédiction divine. Et au lieu de s'entêter et d'aller toujours vouloir que sa volonté s'accomplisse, dire « Seigneur, il y a des blocages, que veux-tu ?» Beaucoup ne se posent plus cette question-là. Quand il y a des blocages, mais que puis-je faire? Ah ben, je vais trouver du travail, ça va me permettre de faire ceci. Donc, toutes les solutions viennent de leur cerveau. Ils ne veulent pas dire, mais Seigneur, que veux-tu? Bien-aimés, tous ceux en qui Dieu ne règne pas finiront d'une manière visible par le quitter. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans 1 Jean 2. Oui, au début, ils vont dire que c'est un pasteur qui est mauvais. Mais après, ils vont dire que c'est les chrétiens qui sont mauvais. Ensuite, ils diront c'est la Bible. Après, ils condamneront Dieu clairement, quoi. Petits enfants, 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà ce qui est dit. Ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis normalement. Donc, tôt ou tard, c'est écrit dans Marc 4, 22, il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Tôt ou tard, Dieu dévoilera les gens en qui il ne règne pas. Tôt ou tard, même si nous, dans les apparences, on a l'impression qu'ils sont bons, ils sont forts, ils sont beaux, Tôt ou tard, Dieu montrera. Alors, bien-aimés, ne cherchons pas ce que Dieu montre un jour qui ne règne pas dans notre vie. Décidons qu'il règne à partir d'aujourd'hui. Disons-lui, on ne demande pas ce qu'un pasteur règne dans la vie de quelqu'un, ni une église, mais que Dieu règne. Dis à Dieu, je veux que toi le Créateur, toi qui m'as créé, que tu décides maintenant sur ma vie. Je ne veux plus résister comme Adam avait résisté. Je veux que toi, tu décides maintenant sur ma vie, tu me conduises. Je veux me soumettre à toi. C'est la parole que tu dois dire à Dieu aujourd'hui. Sinon, bien-aimé, tu finiras dans le club de ceux qui vont se réunir pour contrer Dieu. Un jour. Et Dieu dit toujours, il le dit, il le redit dans les Écritures, dans 2 Corinthiens 6. Il dit, sortez, séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Nous lisons Apocalypse 18. L'Antichrist est en train de préparer l'unification des peuples de la terre dans une religion globale. Ils vont créer une religion qui a des liens avec les gouvernements des États. Un mélange avec une nouvelle vérité, une nouvelle tour de Babel. Voilà. Avec leur vérité, on voit des pasteurs aux États-Unis qui sont en train de consacrer d'autres pasteurs homosexuels. Ils vont créer une religion globale avec des nouvelles vérités soutenues par les États dans le but de détruire la vraie foi basée sur la Bible. Ils vont décréter la Bible vieux livre, livre de mythes, de légendes. Ils vont trouver toutes sortes d'arguments pour écarter la Bible, créer une nouvelle religion. Et ceux qui refuseront d'être dedans seront considérés comme des gens qui sèment le trouble dans l'humanité. Comme Jésus était considéré comme quelqu'un qui semait le trouble à Jérusalem. Les apôtres, quand Jésus est parti, étaient considérés comme des gens qui semaient le trouble à Jérusalem parce qu'ils n'étaient pas comme tout le monde. Mais Dieu dit justement, sortez du milieu de parce que je m'apprête à juger ce monde. Dieu s'apprête à juger le monde. Un jour, la fin va se manifester. Et cette fin est très proche parce que l'individualisme de l'homme est exacerbé. L'homme, il atteint le niveau d'Adam d'avant la chute, quand il a chuté. La boucle commence à se fermer. La tour de Babel se fait, donc nous revenons au début, et donc c'est la fin. Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. » Un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Les fléaux, ce sont les souffrances que Dieu va envoyer en jugement. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on accepte d'être fustigé. D'ailleurs, si nous, on se tait, les pierres vont crier. Dernièrement, nous avons entendu Alain Delon qui a dit que l'homosexualité était contre nature. Nous, si nous, les chrétiens, on se tait, Dieu va susciter des personnes même qui sont en dehors de son peuple qui vont parler pour dire la vérité, dénoncer le mensonge. Dans 2 Corinthiens 6, c'est écrit au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Une fois de plus, le Seigneur dit, séparez-vous de ce monde. Je m'apprête à juger. Je crois que les gens qui ont assisté aux études bibliques du mardi, ils reconnaissent cette phrase-là. Quand Moïse disait aux gens de s'éloigner de Datan, Abiram et Corée, il a dit, éloignez-vous d'eux, parce que Dieu s'apprête à les frapper. Éloignons-nous, parce que Dieu s'apprête à frapper le monde. Dieu a fait l'homme pour que l'homme soit son temple, Éphésiens 2, 22, soit son habitation. Mais l'homme est devenu son propre temple. Il est devenu le temple de l'homme. L'homme prend soin de lui-même comme son propre temple et non plus comme étant le temple du Seigneur. Quelle tristesse. Alors, aujourd'hui, acceptons que le règne de Dieu soit souverain dans notre vie. c'est le jour du Seigneur. Les temps sont proches. Il est écrit, ton péché te retrouvera. Nombre 32, 23, je crois. Ton péché te rattrapera. Le refus que Dieu règne sur ta vie, même si en apparence tu as vaincu l'impudicité, tu as vaincu le monde, en apparence, tôt ou tard, ce rejet de Dieu-là se manifestera. Mais n'attendons pas ce temps-là. C'est le temps de dire, Seigneur, j'ai compris que c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Et tu as de bonnes pensées pour moi. Tu veux être mon Père. Tu veux être mon Père. Jésus est venu nous révéler le Dieu créateur comme notre Père. Pourquoi refuser que celui qui a fait les cieux et la terre soit ton Père? C'est vraiment être méchant. Quand on connaît les projets de Dieu pour nous, on se dit, Seigneur, c'est vrai que mon corps me pousse à pécher, à faire du mal, mais moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Ce que je veux, c'est te rendre ce qui t'appartient. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. L'argent, la pièce là, c'est à César, rendez à César. Mais vous, vous êtes la pièce de Dieu. Sur vous, il y a l'image de Dieu. Rendez ça à Dieu. Nous devons nous rendre à Dieu. Nous avons son image, alors nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Nous allons chanter encore l'Éternel règne. Il est majestueux. Que Dieu règne dans nos vies et prenne tout le contrôle. Un jour, les peuples de la terre se réuniront pour attaquer le Fils de l'homme. Ça sera la dernière tour de Babel. Et ça sera leur fin parce qu'un feu les consumera. Mais Dieu nous demande de sortir de Babylone, de sortir de ce mélange-là. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu règne totalement en nous et sur la terre. Et nous verrons sa gloire comme le nom de Jésus est devenu un nom glorieux parce que Dieu a régné totalement en lui. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Merci Seigneur de nous amener à te servir, à te laisser régner totalement. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange, Éternel. Tu as fait les cieux. Amen.
Nous allons prier que l'Éternel règne dans nos vies respectives.